إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد
Nous sommes arrivés au verset 190 de Sourate Al-Baqarah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans ses versets 190 à 193, il dit dans le sens « Combattez sur le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais sans outrepasser les limites, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. La sédition est pire que le meurtre. Ne les combattez pas cependant dans la mosquée sacrée tant qu'ils ne vous y combattent pas. Mais s'ils le font, alors tuez-les. Telle est la rétribution des mécréants. Et s'ils renoncent à la mécréance, Allah est pardonneur et miséricordieux. Combattez-les afin que la sédition ne se répande pas et que la religion soit consacrée exclusivement à Allah. Et s'ils renoncent au polythéisme, ne leur témoignez plus d'hostilité, exception faite de ceux qui auront un comportement inique. Ces versets contiennent l'ordre de combattre dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci a eu lieu après l'émigration à Médine. Une fois que les musulmans sont devenus forts et en mesure de combattre pour protéger leur personne, leur honneur et leur religion. Allah leur a ordonné alors de combattre ce qu'ils ne pouvaient faire lorsqu'ils étaient à la Mecque. Nous avons déjà parlé dans l'explication du verset 154 de Sourate Al-Baqarah des règles concernant le combat sur le sentier d'Allah et que cela concerne bien sûr un ordre donné aux dirigeants des musulmans avec des armées conventionnelles et non pas le désordre et les tueries et l'injustice que l'on peut trouver sous le nom du combat sur le sentier d'Allah qui n'est en réalité que le combat sur le sentier de Shaytan. Donc quand on lit tous ces versets, il faut bien les comprendre dans leur contexte et dans leur réalité religieuse. C'est-à-dire qu'il y a des ordres dans le Coran qui sont dirigés pour chaque individu, d'autres qui sont des obligations communautaires, d'autres qui sont dirigés vers les dirigeants des musulmans. Donc tout ce qui concerne la politique, l'ordre de la guerre ou de la paix, les relations internationales ou autres, cela concerne les dirigeants des musulmans et non pas le commun de chaque musulman. Mais le commun de chaque musulman connaît ses règles dans le fait qu'il ne soit pas injuste, qu'il sache quand est-ce qu'il lui est permis de participer à ce type de combat et quand est-ce que ceci lui est interdit. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a réglementé toute chose. L'islam est venu réglementer toute chose. De comment aller à la selle, à comment aller au lit, à comment faire ses adorations, à comment avoir ses relations avec sa famille, son épouse, les proches, les lointains, jusqu'à ce qu'elle a réglementé l'économie et aussi les relations internationales et les règles régissant la paix et la guerre. Il n'y a pas une chose de la vie de l'être humain dans laquelle l'islam n'est pas venu donner des règles. Car l'islam a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala pour les hommes, pour qu'ils vivent avec et non pas pour qu'ils soient enfermés seulement à la mosquée. Puis, dans cette spécification, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Fi sabilillah » sur le sentier d'Allah, il y a une incitation au dévouement et à la sincérité et une interdiction des combats fratricides dans la sédition. De même, tous les combats autres que pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les combats « qitalul fitna » entre les musulmans, les combats de « fitna », les combats pour des causes autres que pour les bonnes causes, ou même si la cause est bonne, sur une manière autre que la manière que l'islam a autorisée. À savoir que le combat reste toujours la dernière solution. Auparavant, il y a la da'wa, puis il y a la jizya, l'impôt de capitulation, puis il y a le combat. Et on va voir dans le reste des versets quelles sont certaines règles que l'on a déjà citées dans le verset 154, mais d'autres règles ici, concernant l'interdiction de transgresser dans le combat. Puis Allah tabaraka wa ta'ala ici parle de combattre ceux qui vous combattent. Donc là, il parle de qui? Des kuffars de Quraysh. Les Quraishites qui avaient combattu les musulmans et qui les avaient sortis de chez eux. Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Et sortez-les d'où ils vous ont sortis. Donc les musulmans croyants qui étaient à la Mecque, ils ont été contraints à quitter la Mecque à cause des supplices et des châtiments et des tentations qu'ils subissaient. Et ils ont été combattus et torturés et tués. Et pendant cette période-là, Allah tabaraka wa ta'ala avait interdit aux musulmans de répondre par la force. Et il leur avait demandé de patienter et de tourner la page. Et c'est pour cela que les savants, comme Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les savants de l'islam, considèrent que les différentes étapes qui ont été révélées concernant la paix et le combat ne sont pas abrogées. Mais chaque étape sera pratiquée selon l'état de la communauté et des musulmans dans le lieu et dans l'époque dans laquelle ils se trouvent. S'ils sont dans un lieu et dans une époque où ils sont en faiblesse, la seule chose qu'ils pratiqueront, c'est ce que les musulmans mécois pratiquaient, c'est-à-dire la patience sur les méfaits des mécréants et sur leurs attaques et leurs tortures et leurs tueries même. La patience et la da'wa et la prêche au tawhid. Puis il y a eu d'autres étapes, les étapes où il était permis de se défendre, et les étapes où il était permis d'aller les attaquer pour ceux qui allaient attaquer, et les étapes où il était nécessaire de répandre l'islam et de combattre ceux qui empêchaient le message d'atteindre les gens. Donc tout ceci sont liés à la faiblesse et à la force de la Oumma, et ces décisions reviennent aux dirigeants des musulmans. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant du combat, ceux qui vous combattent, mais sans outrepasser les limites. C'est-à-dire, ceux qui sont prêts à vous combattre, il s'agit des hommes adultes et non des vieillards qui n'ont ni opinion, ni capacité de combattre. L'interdiction de transgresser les limites englobe toutes les formes de transgression. Écoutez bien, l'interdiction de transgresser les limites englobe toutes les formes de transgression. Donc là, on parle, ça y est, le combat est engagé. Malgré cela, il y a encore des conditions. Comme le fait de combattre ceux qui ne combattent pas. Les femmes, les malades mentaux, les enfants, les moines et autres. De même, l'interdiction de mutiler et de défigurer les morts. L'interdiction de tuer les animaux. L'interdiction d'arracher les arbres. L'interdiction de brûler, de détruire ou autre pratique, à moins qu'il y ait un intérêt de couper un arbre ou de détruire un mur pour le faire le passage ou autre. Mais sinon, c'est interdit. Parmi les autres formes de transgression, il y a le fait de combattre ceux qui s'acquittent de la jizya, l'impôt de capitation, car ceci n'est pas permis. À savoir que beaucoup de gens qui veulent attaquer l'islam parlent du fait que, ah oui, au temps des musulmans,
Les koufars, ils payaient la jizya, l'impôt de capitation. Mais savent-ils que cet impôt-là, il est moins grand que les impôts que les musulmans payent eux-mêmes? Il est moins élevé. Ça, c'est un. Deuxièmement, donc, leur devoir vis-à-vis de l'État et de la société musulmane était moindre, mais leurs droits étaient complets. Ils étaient protégés et ils étaient des citoyens à part entière. C'est-à-dire, ils avaient des droits bien protégés. C'était interdit de les transgresser, interdit de les forcer d'être musulmans ou autres. Et si même ils étaient attaqués par des ennemis même extérieurs, tous les musulmans devraient être là pour les défendre. Tant qu'ils sont, ils font partie de la nation. Même s'ils ne sont pas musulmans. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui tue une personne avec qui on a un pacte de paix ne sentira pas l'odeur du paradis. Et il a mis en garde de faire de l'injustice à Ahl al-Dhimma, les gens avec qui on a un pacte, c'est-à-dire les gens qui payent la jizya, les kuffars qui vivaient sous l'autorité musulmane. D'ailleurs, ceci a été bien connu dans l'histoire. Par exemple, le Cham, la Syrie. Avant, c'était l'empire byzantin qui régnait en Syrie, donc la chrétienté. Et quand les musulmans sont entrés au temps de Omar ibn al-Khattab jusqu'à aujourd'hui, tous les chrétiens byzantins qui n'ont pas voulu embrasser l'islam, qui sont restés chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés chrétiens. 1300 ans, 1400 ans, personne ne les a obligés à être musulmans ou ne les a contraints à être musulmans. Ils étaient protégés au milieu des musulmans. Alors cette histoire de, oui, les minorités chrétiennes opprimées dans le monde musulman, et les juifs, quand ils se sont enfuis d'Europe pour être protégés par les musulmans au Maghreb, ils se sont enfuis avec les musulmans qui étaient en Andalousie pour ne pas subir les répressions des chrétiens. Donc, les juifs et les chrétiens ont toujours bien vécu au milieu des musulmans. Ils étaient protégés avec des règles précises, bien sûr, mais qui ne touchaient pas à leur intégrité, ni à leurs biens, ni à leur liberté de culte. Même. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de ceux qui ont viré les musulmans de la Mecque et qui les ont combattus. On parle toujours des hommes combattants. On ne parle pas des non-combattants et des femmes et des vieillards, etc. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ces gens-là, tuez-les où que vous les rencontriez. Donc il s'agit là d'un ordre de combattre les combattants parmi les polythéistes où qu'ils se trouvent, à savoir que l'objectif n'est pas de combattre ni de les tuer, mais l'objectif est simplement de laisser libre cours à la prédication de l'islam et de sortir les gens de l'obscurité vers la lumière et de les sortir de l'oppression dans laquelle ils vivaient pour connaître la justice de l'islam. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a accepté de ce combat le combat dans la mosquée sacrée, qui n'est permis que s'il y a une agression de la part des polythéistes. Auquel cas, il faut les combattre pour les repousser. Ceci doit se poursuivre en tout temps jusqu'à ce qu'ils cessent leur mécréance et se soumettent à Allah, ou bien qu'ils acceptent de payer la jizya. Et tout ceci est lié, comme on a dit, selon les situations de force et de faiblesse, et selon la décision des dirigeants musulmans, et selon les contrats, les pactes qu'ils ont de paix, ou qu'ils n'ont pas de pacte avec les pays voisins ou les autres pays qui les entourent. Une fois soumis à Allah tabaraka wa ta'ala, celui-ci acceptera leur repentir et leur pardonnera, même après avoir professé le polythéisme dans la maison sacrée et combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, car c'est là une marque de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa générosité envers ses serviteurs. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alhamdulillah, la grande partie des Arabes qui avaient combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont embrassé l'islam. Ils sont devenus de vaillants compagnons. D'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque pour la victoire de la Mecque, il n'est pas venu entrer à la Mecque sans être sûr qu'il va y avoir le minimum de 100 versets possibles. Et d'ailleurs, en entrant à la Mecque, il a pardonné à ceux qui lui ont transgressé, sauf un nombre restreint de personnes, mais sinon il a pardonné en général à ceux qui lui ont fait du mal, et il a même honoré les chefs de la Mecque, et il ne s'est pas vengé, et il est entré tout plein d'humilité, la tête baissée, sallallahu alayhi wa sallam. Non pas comme les rois orgueilleux, victorieux, qui entrent tout plein de fierté et d'orgueil, et qui écrasent leurs ennemis. Non. Le fait que le combat dans l'enceinte de la maison sacrée était considéré par certains comme un crime dans ce pays sacré. Allah tabarak wa ta'ala leur a rappelé que le polythéisme et l'incitation à la sédition et aux persécutions des gens du monothéisme est pire que le fait de combattre. Vous n'avez donc, ô musulmans, aucune gêne à les combattre dans ce sens-là. Allah tabarak wa ta'ala a rappelé ensuite le but de la lutte pour sa cause, qui n'est nullement de verser le sang des polythéistes ou des mécréants ou quoi que ce soit, ni de leur spolier ou de leur prendre leurs biens, mais bien pour que la religion soit consacrée exclusivement à Allah et qu'elle supplante toutes les autres religions en repoussant tout ce qui s'oppose à elle comme forme de polythéisme. C'est là le sens de la fitna dont parle ce verset. Si ce but est atteint, ou bien la jizya est donnée, il n'y aura alors ni combat, ni tuerie. Voilà donc quelques règles liées à cela. On pourrait s'étaler beaucoup plus, mais ce n'est que pour lire les versets et en comprendre les sens généraux. Nous avons déjà parlé d'autres règles régissant le combat sur le sentier d'Allah dans le verset 154. Je vous invite à y revenir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.